Alors aujourd'hui, on va voir une partie entre Makogonov, Vladimir Andreïevitch, si ça intéresse du monde, et Paul Kérès. Alors, Makogonov, c'était un des meilleurs joueurs soviétiques dans les années 30-40. Et il n'a pas fait n'importe quoi après, puisqu'il est quand même devenu l'entraîneur de Smyslov, qui est quand même devenu champion du monde par la suite. Et puis, en fait, il a entraîné aussi Bagirov, Vladimir. Et il a donné quelques leçons dans les années 70 au club de Bakou à un petit jeune qui commençait et qui s'appelait Garry Kasparov. Donc je veux dire, c'était quand même un très bon professeur, certainement, puisqu'il y en a pas mal qui ont réussi grâce à lui. Et Paul Kérès, qui va avoir les noirs dans notre partie, bah, il est né en fait en Estonie, c'est un joueur estonien, mais en 1916, l'Estonie est vite devenue russe. Il a continué à être joueur d'échecs estonien, enfin russe. Il a gagné plusieurs fois les championnats du RSS. Il s'est battu plusieurs fois pour le titre de champion du monde. Il a fait le match pour le championnat du monde contre Alekhine. Et il faut voir qu'il a battu rien moins que Samuel Reshevsky. Pour réussir à être pour à jouer contre Alekhine, il lui a fallu battre Samuel Reshevsky, Vassili Smyslov, un certain Höve et un certain Botvinnik, c'est-à-dire au minimum trois champions du monde et qu'il avait bien enfin il s'est bien débrouillé. C'était un très très grand joueur et ses parties sont encore étudiées de nos jours parce que c'était un très grand attaquant et on retrouve par exemple dans certaines ouvertures des attaques Kérès dans la sicilienne. Dans la Chevening, on retrouve l'attaque Kérès qui vient directement de lui. Il y a des apports énormes. Makogonov, lui aussi, aura amené des choses. Il y a une variante de lui dans la Grünfeld et une variante dans l'Estendienne. Donc, on va commencer notre partie. Le thème d'aujourd'hui, c'est la paire de fous. Parce qu'on en était au fou et je me suis dit qu'on pouvait quand même pas abandonner le fou et passer au tour sans avoir vu ce qu'était en fait, c'est pas ça, c'est qu'on va voir quelque chose sur le cavalier dans les positions fermées la prochaine fois. Et je me suis dit qu'il fallait, il serait bien quand même d'avoir vu des positions ouvertes et la paire de fous dedans pour mieux comprendre ce que c'est que la différence entre une position ouverte et une position fermée. Une position ouverte où les fous s'expriment mieux, parce qu'il y a plus de diagonales libres, et une position fermée où ce sont justement les cavaliers qui vont faire le travail. Ça commence par 1, David 2, David 4. Les noirs répondent Eva 7, Eva 6. Les blancs continuent comme normalement. César 2, César 4. Et là, les blancs vont jouer une variante qui est très particulière à Kérès lui-même, à Paul Kérès. Ils vont jouer fou B4 échec, fou Félix 8, Bela 4. Avec échec. Ce à quoi les blancs répondent cavalier Bela1, César 3. Et la variante que jouait Kérès, c'est de jouer Félix 7, Félix 5. Ça a été très longtemps une des variantes favorites de Kérès. Mais elle n'a pas eu beaucoup de popularité parmi les forts joueurs, mais Kérès l'a joué assez souvent. Dame enfin dame David 1 Bella 3. L'idée de ce coup de dame Bella 3, c'est de pouvoir attaquer le fou avec Anna 2, Anna 3, puisque évidemment le fou va être protégé, tout en empêchant les noirs de détruire notre structure de pions. On va voir, on va continuer tout de suite. Les noirs jouent dame, David 8 et Vasset. Et maintenant, les blancs posent la question au fou en lui demandant ce qu'il veut faire, soit se retirer, soit avec Anna 2, Anna 3. Si la dame n'avait pas été là, les noirs, avec leur coup suivant, c'est-à-dire fou, Bella 4 mange César 3. Si la dame était restée en D1, ben on était obligé de reprendre avec Bella 2 mange César 3. Maintenant, et ça nous doublait des pions. Ce qui, on le verra plus tard, est quand même une faiblesse. Là, en ayant joué dame Bella 3, les blancs, peuvent récupérer le fou en jouant dame Bella 3 mange César 3. Et comme ça, notre structure de pion n'est pas détruite. Ah. Et cavalier, Gustave 8, Félix 6. Alors, on va constater quand même qu'on est dans une... C'est vraiment très, très spécial. C'est-à-dire, avec fou B4, avec fou Bella 4, c'était une Bogo indienne. Avec E6, c'était une Nimzo indienne. Et là, on est dans une hollandaise avec F5. C'est assez particulier à Kérès. C'était vraiment une ouverture à lui. Donc, il continue un peu dans le style de la hollandaise en jouant cavalier F6. Gustave 2, Gustave 3. Ben, il semble logique pour les blancs d'aller placer leur fou en Gustave 2, leur fou blanc qui est en Félix 1, en Gustave 2. Si le fou noir doit se développer, le fou noir qui est en César 8, on s'aperçoit que pour se développer, il peut difficilement le faire en passant, il a quand même un pion en David 7, un pion en Eva 6 et un pion en Félix 5 sur cette diagonale. Donc ça lui obligerait à bouger 3 pions pour être actif. Il est évident que ce fou, César 8, doit se développer en Bella 7. Donc, les blancs, immédiatement, mettent le fou en Gustave 2 pour contrer ce fou qui sera en Bella 7. Donc, en fait, après qu'on ait joué Gustave 2, Gustave 3, les noirs jouent David 7, David 6. Les blancs jouent cavalier Gustave 1, Félix 3. les noirs jouent B6, jouent Bla7, Bla6. Alors, on s'y attendait, hein, il n'y a pas vraiment de surprise à ce coup-là. Les blancs jouent fou Félix 1, Gustave 2. Les noirs, bah, ils continuent avec fou César 8, Béla 7. Les deux joueurs sont en train de se développer. On continue d'ailleurs, ils continuent leur développement en jouant petit roque pour les blancs. Et petit roque pour les noirs. Alors, là, il faut déjà commencer à établir un petit plan. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer. On va tout de suite faire un tout petit... aperçu de la position qu'on a devant. Les noirs, lorsqu'ils ont joué fou Béla 4, mange César 3, ils ont donné aux blancs un avantage, un léger avantage. Cet avantage, ça s'appelle la paire de fous. Les noirs, en sacrifiant leur fou sur le cavalier, ont abandonné la paire de fous. Et c'est à ce moment-là, justement, la paire de fous ne fonctionne bien, les fous ne fonctionnent bien que dans les positions ouvertes. C'est-à-dire, on va voir comment maintenant les blancs vont mettre à profit le jeu pour ouvrir le jeu au maximum. Donc on va surtout observer toutes les manœuvres qui vont aider à cela. Donc pour l'instant, les blancs jouent Béla 2, Béla 4. Ça, c'est en fait pour mettre le second fou, on va le voir, sur la grande diagonale. Enfin, on va voir. Cavalier Béla 8, David 7. César 1, Béla 2. Il est à remarquer aussi que les blancs ont plus d'espace sur l'aile dame. Et normalement, ils devraient, pour pouvoir avoir du contre-jeu, ils devraient normalement pousser C5. Arriver à pousser C5, dégager la grande diagonale, ainsi en faisant des échanges, dégager la grande diagonale qui tape sur le pion G7. Ce serait un plan normal. C'est-à-dire on pousse C5, il y a une prise, on prend avec le pion, il reprend avec le pion, et on arrive à quelque chose de stabilisé avec une grande diagonale ouverte. On a déjà ouvert des lignes. Mais bon, les noirs, c'est quand même Paul Kérès, ne sont pas bêtes. Et voyant que les blancs sont à deux doigts de pousser C5, bah, ils poussent C5 eux-mêmes. C'est le meilleur moyen d'empêcher l'autre de le faire, c'est de le pousser soi-même. Donc les noirs jouent César 7, César 5. C'est un moyen d'empêcher le coup César 4, César 5. Maintenant, les blancs, bah, ils voient bien que ça ne marche plus et ils vont essayer donc de jouer de. Il joue donc tour F, tour Félix 1, passant D1. Ouais. Il faut voir que la case. Il faut voir que la case E4 est bien trop contrôlée par les noirs pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc on va essayer de pousser D5. Si on le peut. Cavalier EVA4. C'est un coup classique dans ce qu'on appelle la hollandaise. C'est l'occupation de cette case et les attaques qu'elle génère à partir de là. Donc ben là, les blancs sont bien obligés de jouer. Dame César 3, Béla 3. Et on ramène l'autre cavalier. Alors ça, c'est un thème classique, hein, si vous un jour vous décidez à jouer la hollandaise, c'est ce coup de cavalier. Et très souvent, on arrive à ramener le cavalier qui est comme ça va se passer maintenant, cavalier David 7, Félix 6. On vient soutenir le cavalier qui est en EVA4. Les blancs libèrent leur diagonale. David 4. Mange César 5. Maintenant, le fou qui est en Béla2 a une superbe diagonale qui tape directement sur le roi. Maintenant, c'est là où il faut calculer un petit peu. Avec quoi vont reprendre les noirs? S'ils reprennent avec le pion B, avec le pion D, pardon, avec le pion David 6, mange César 5, et ils vont laisser un trou énorme en David 6 que les blancs pourront utiliser. Aussi, pour éviter cette faiblesse, ils vont jouer Béla 6, mange César 5. Maintenant, les blancs réfléchissent et ils se sont dit, bon, il n'y a qu'une chose qui m'embête vraiment, c'est le cavalier qui est en E4, qui est en EVA4. Donc ils se décident à attaquer le cavalier en EVA4. Alors, ils jouent cavalier Félix 3, David 2. Il est attaqué, parfois il est attaqué par le cavalier. Mais en fait, l'idée principale, c'est surtout d'arriver, si les noirs ne prennent pas en David 2, c'est de pouvoir pousser le pion F3, le pion Félix 2, Félix 3 pour chasser ce cavalier. Comme ça, plus aucun cavalier ne viendra se mettre en EVA4. Donc c'est l'idée que les Noirs ont préféré jouer tour Anna8, Béla8. Et aussitôt, les Blancs ont joué Félix 2, Félix 3. Les Noirs ont décidé d'échanger. Hein. Ils ont joué cavalier EVA4, mange David 2. Et on a joué tour David 1, mange David 2. Alors. Là, les noirs ont fait un premier coup qui n'est pas très très heureux. Ils ont joué fou Anna 8. Oui, fou Anna 8. Les blancs auraient peut-être les noirs, pardon. Aurait peut-être mieux fait d'essayer de pousser des 5, d'utiliser leur majorité centrale. Ils ont une majorité centrale, les Noirs. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est un gros, gros... C'est une chose très puissante, une majorité centrale. Si on arrive à la pousser, elle peut même aboutir à un pion passé. Mais là, on ne le saura jamais. En fait, le coup que la position attend, parce qu'en fait, on ne peut pas dire autrement, le coup que la position attend, c'est David 6, David 5, plutôt. C'est la case la plus surprotégée de la part des Noirs, et c'est la case où ils peuvent vraiment percer. Ils sont supérieurs aux Blancs sur cette case-là, en nombre d'attaques dessus. Ils y sont 3 fois dessus. Les Blancs ont répondu avec Dame, Bella 3 et Va 3. Les Noirs ont fait un deuxième coup un peu bizarre. Ils ont joué Félix 5, Félix 4. C'est effectivement un pas si mauvais coup, puisqu'effectivement les deux captures de la part des Blancs seraient mauvaises. Si on qu'on fasse Dame mange F4, où G mange F4, avec cavalier H5. Par exemple, si on faisait G mange F4, cavalier H5 commence déjà à mettre de la pression, puisque le cavalier va aller s'installer en F4. Et il va mettre une grosse pression sur toutes les cases blanches autour de... Et si on avait joué Dame mange F4, le cavalier, par contre, cette fois-là, il irait en E4. Où il est gardé par le fou qui est en Anna 8. Et il y a la tour qui est en Félix 8 qui attaque la dame. Ça gagnerait une tour, pratiquement. Ça gagne une qualité. Puisque la tour qui est en D2 serait attaquée. Bah, les blancs l'ont vu et non pas pris le pion, ça, c'est un coup excellent si les blancs se décident à prendre. Mais il y a aussi l'option aux échecs qu'on n'est pas obligé de prendre. Quand on calcule que tout est mauvais, bah, les blancs ont joué Dame, David 3. Bah, les noirs ont continué leur mouvement en faisant Félix 4 mange Gustave 3. Hector 2 mange Gustave 3. Et là, les noirs ont joué tour Félix 8, David 8. Dans l'espoir de pousser David 6, David 5. Les blancs ont joué Dame David 3 et Va 3. Ils sont revenus sur leur case de départ. Alors, elle n'est pas venue là pour rien, la dame. Hein. On va voir pourquoi. Les noirs jouent César 5 mange Bella 4. Anna 3 mange Bella 4. Bien sûr, les noirs s'emparent. Ils jouent tour mange Bella 4. Et les blancs avaient prévu de récupérer leur pion en faisant tour mange Anna 7. Voilà pourquoi la position de la dame était très bien en 1 à 3. D'autant plus qu'elle empêche l'avance David 5. Elle empêchait l'avance David 5 quand il y avait toutes les pièces. Parce que si on prenait, il ne pouvait pas reprendre avec le pion Eva 6 puisqu'il y avait la dame derrière. Les noirs ont joué. Tour, Bella 4, Bella 7. Maintenant, là, les blancs, les noirs ont quand même. Les noirs, ils sentent bien qu'ils sont. Ce sont eux qui sont sous le feu d'une attaque. Alors, ils espèrent échanger. C'est pour ça qu'ils viennent de jouer tour Bella 7. En espérant que les blancs jouent tour Anna 7, mange Bella 7. Mais en fait, là, c'est pas l'intérêt des blancs de faire des échanges. Tous les échanges amoindrissent l'attaque. C'est une règle qu'il faut... Chaque fois qu'on fait un échange, ça ne favorise que le camp qui défend. Alors, ou alors, ça dépend. Si on échange des pièces qui sont incluses dans la défense active du roi, par exemple, ça peut être un échange plutôt visant l'attaque. Mais un échange tel qu'il se produirait là, c'est-à-dire tour Anna 7, mange Bella 7, ne serait pas un bon échange. Donc, les blancs le refusent et ils jouent tour Anna 7, Anna 6. Et en fait, si on regarde, la tour, elle est même mieux placée là, puisqu'elle attaque les pions centraux des noirs. Les noirs vont jouer tour César 7 pour attaquer le pion qui est en César 4. Les blancs disent d'accord, c'est un pion qui serait difficile à défendre, donc je vais voir si je ne peux pas attaquer ailleurs. Et les blancs jouent fou, Gustave 2, Hector 3. Et eux se décident à attaquer les pions centraux. En plus, on voit tout d'un coup que là, les fous ont beaucoup, beaucoup de puissance. Le fou qui est en 1 à 8 est contré par le pion qui est en Félix 3. Il n'aurait servi à rien de rester sur cette grande diagonale où le fou qui était en Gustave 2 avait son contraire en 1 à 8. C'est-à-dire, ça n'aurait fait qu'un échange qui, là aussi, n'aurait pas arrangé les blancs. Donc ils continuent, ils repositionnent leur fou sur une diagonale qui a plus d'intérêt. Pour l'instant, c'est de jouer fou Hector 3. Les noirs ont un bon moyen de parer ce coup-là, c'est-à-dire c'est d'enlever le pion de la case Eva 6 et ils jouent Eva 6, Eva 5. On va voir comment les fous, dans les coups qui viennent, vont vraiment amener tout le surplus d'attaque. Là, les blancs, il faut rajouter de l'attaque quelque part. Toutes les pièces noires sont prêtes, à part le fou de case blanche qui est en A8, toutes les pièces sont sur case noire. Aussi, les blancs comme on vient de leur fermer la grande diagonale, ben, ils vont encore replacer leur fou. Mais là, cette fois-ci, l'autre fou, le fou Bella 2, qui vient de voir sa diagonale bouchée par le coup Eva 6, Eva 5. Et c'est souvent le cas. On essaye de, quand vous avez des fous très actifs comme ça, c'est bien d'arriver à les boucher avec un pion. Comme ça, la méthode de mettre un pion en David 6 et Eva 5 est excellente. C'est un très bon moyen, de, normalement, de contrer un fou qui serait très actif. Mais là, bon, bah, les blancs décident de le repositionner et jouent fou, Bella 2, Anna 3. Et on s'aperçoit que la diagonale Anna 3, Félix 8 est tout aussi intéressante que celle que la Anna 1, Hector 8. Il y a beaucoup de monde sur cette diagonale. Ça, on attaque pour la troisième fois le pion David 6. Il est attaqué par la tour en 1 à 6, la tour en David 2 et le fou en 1 à 3. Et on ne peut pas le pousser, ce pion-là, puisque derrière David 6, il y a une dame. Donc, il ne reste plus qu'à le protéger. Et l'un des moyens de le protéger, c'est quand même... On ne peut pas jouer tour César 7, David 7, puisque le fou qui est en Hector 3 nous l'interdit. Le fou qui est en Hector 3 garde la case David 7. Il nous reste qu'un moyen, c'est de jouer cavalier, Félix 6, Eva 8. On voit comment les fous petit à petit restreignent les possibilités noires. Maintenant, on rajoute de la pression et les blancs jouent César 4, César 5. Les noirs ne peuvent pas prendre. Ils ne peuvent pas jouer David 6 mange César 5. Ben, sans cela, après fou mange César 5, s'ils prennent, hein, ben, la dame ne peut plus trop défendre la tour qui est en David 8. On s'aperçoit que la dame ne peut aller nulle part sur la diagonale qui va de David 8 à Hector 4. Si on la met en... Alors, il faut voir que le pion a disparu de David 6. Donc, si on la met en Félix 6, bah, il y a la tour en 1 à 6 qui la viserait. Si on la met en Gustave 5, c'est la dame qui est en Eva 3 qui la viserait. Et en Hector 3, ce serait le pion Hector 4, pardon, ce serait le pion qui est en Gustave 3, qui serait bien content de manger une dame comme ça. Donc, on peut pas prendre. Donc, bah, il reste plus beaucoup de solutions. Les noirs ont joué tour César 7, César 6. C'est-à-dire en proposant encore un échange avec la tour Anna 6. Mais là, l'attaque est déjà trop avancée. Les blancs ont eu un coup d'attaque qui est bien plus puissant que la perte de la tour Anna 6. Ils jouent César 5, manche David 6. Et là, c'est la dame qui est attaqué. Donc, les noirs sont obligés de jouer cavalier Eva 8, manche David 6. Et là, bah, y a une bonne petite combinaison sympathique, qui est de jouer tour. Tour David 2, mange David 6. Les noirs jouent tour César 6, mange David 6. Mais il faut voir que s'ils avaient voulu jouer tour David 8, mange David 6, on commençait à embêter sérieusement les noirs en faisant tour Anna 6, mange Anna 8. Donc, ils ont joué tour C, mange David 6, fou, mange David 6. Alors, est-ce qu'on peut manger ? Ça me paraît difficile, sans rien perdre. Parce que si la tour remange, si la dame mange, c'est simple. On mange la dame, on a gagné une dame contre un fou. Si c'est la tour qui mange, c'est-à-dire tour David 8 mange David 6, on s'empare du fou, on fait tour Anna 6 mange Anna 8 avec échec. Ce qui n'est pas tout à fait ce qui nous permet de gagner une pièce. Dame. Comme ils ont vu qu'ils perdaient une pièce, les noirs jouent dame Eva 7, passant Bella 7. Maintenant, les blancs n'ont qu'à jouer fou Hector 3. Passant à Eva 6, échec. Le roi est repoussé dans le coin. Il est forcé de jouer roi Gustave 8, Hector 8. Et maintenant, il y a une toute petite astuce bien sympathique. Qui est de jouer Dame Eva 3, Bella 6. On a une pièce d'avance. Donc les noirs tentent tour David 8, Eva 8. Les blancs se contentent de jouer fou David 6, mange Eva 5. En enlevant le fou de la case David 6, la dame qui est en Bella 6 protège désormais le fou qui est en Eva 6. Donc il n'y a rien à craindre. Les noirs jouent dame Bella 7, Eva 7. Attaquer le fou. Et là, les blancs joue tour Ana6, Ana7. La dame est attaquée. Si la dame, qui est en Eva7, prenez le fou qui est en Eva6, la dame reprendrait la dame, la tour qui est en Eva8 mangerait la dame en Eva6, et les blancs n'auraient plus qu'à jouer tour Ana7 mange fou Ana8 avec échec. Le seul coup qui soit jouable pour les noirs pour contrer le mat, enfin pour le retarder d'un coup, ce serait de jouer tour Eva6 Eva8, et les blancs n'auraient plus qu'à jouer tour Ana8 mange Eva8 mat. Alors, il faut juste se rappeler, enfin, si vous rejouez cette partie, il faut juste vous rappeler une chose. La paire de fous, si vous la rejouez, regardez comment cette paire de fous a évolué tout au long de la partie, comment Makogonov a replacé toutes ses pièces petit à petit. On voit ce coup de fou Hector 3, puis fou Ana 3, où il les replace sur des diagonales où ils ont de plus en plus de puissance. Et on voit que le fait d'avoir la paire de fous peut souvent devenir un avantage sur toute une partie. Je ne dis pas que ça va arriver tout le temps. Mais souvent, l'avantage de la paire de fous permet simplement de choisir quand on échange un des fous contre autre chose. Alors ça, c'est du positionnel plus, mais le fait de posséder la paire de fous dit « j'échangerai quand je veux, je peux toujours chasser un cavalier qui va m'en embêter ». Alors qu'avec un cavalier qui est plutôt à court terme, ça va être dur d'aller s'échanger contre un fou, par exemple. Alors, par contre, on voit aussi, là, on a vu aussi, les Noirs n'ont pas tout à fait tout bien joué, ils ont fait quelques coups très imprécis. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est le joueur qui a la paire de fous se doit d'ouvrir la position, alors que celui qui défend, c'est-à-dire si vous n'avez pas la paire de fous et que vous voyez que votre adversaire est en train d'essayer d'ouvrir la position, vous, au contraire, vous devez la garder fermée. La position. C'est pour ça que des coups qui ont été joués comme F4 qui ouvre la position ou C manche B4 qui ouvrait la position, c'était pas de très bons coups de la part des Noirs. C'est des coups un peu douteux, on dira. Voilà. Et on va retrouver cette paire de fous. On la retrouve, il y a plusieurs ouvertures comme ça où les blancs ou les noirs donnent leur paire de fous dès le départ. Bon, il y a la Nimzo indienne. C'est un peu ce qu'on vient de voir, puisque c'est une pseudo-Nimzo. Enfin, il y a ce schéma d'aller manger ce cavalier en C3 avec le fou qui est en B4, qui fait partie de la Nimzo indienne. Et il y a une ouverture avec les blancs qu'on appelle la Rosolimo, sicilienne, où on va attaquer le cavalier qui est en C6 avec un fou en B5 pour l'échanger. Pour doubler des pions, souvent, enfin pas que dans ce but-là, mais avec ce but-là en plus, et on s'aperçoit que toutes ces ouvertures ont une idée, mais on se retrouve avec le joueur, on donne la paire de fous. Et dans la Nimzo indienne, très souvent, le fait de donner la paire de fous, on joue sur le développement qu'on gagne. On essaye d'avoir justement, les blancs, eux, vont essayer d'ouvrir le centre dans la Nimzo indienne. C'est un peu ce qu'on vient de voir. Hein. Les blancs essayent d'ouvrir le centre, ce qu'ils ont très bien réussi dans cette partie-là. Et les noirs, par contre, eux, comme ils n'ont qu'une paire de cavaliers, ce qui est moins important, ils font tout pour la garder fermée. Et par contre, ils essayent d'obtenir très vite un avantage avec leur paire de cavaliers, puisqu'ils ont l'avantage de l'avance de développement avec les noirs normalement. Enfin, voilà.